Salam alaikum, my sweet sister. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans A Cup of Tea Money, le podcast des femmes musulmanes qui aspirent à une vie épanouie ici-bas et dans l'au-delà. Moi, c'est Kounadi, fondatrice de Budget Éthique Femmes, où j'accompagne et conseille des sweet sisters dans la gestion de leurs finances personnelles en respectant l'éthique musulmane et en tenant compte de leurs aspirations profondes. Ici, nous sommes entre nous et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible, voire même tabou. Il s'agit de la gestion des finances dans le couple. En France, comme dans notre communauté, parler ouvertement d'argent n'est pas forcément bien vu. Or, la communication dans un couple est primordiale, et cela peu importe le sujet. Il est important d'oser aborder la question de l'argent afin d'avoir une stabilité et sérénité dans le couple et éviter de créer des malentendus qui seront à l'origine de frustrations et donc de conflits. Je souligne que dans les motifs de divorce en France, l'argent est une cause qui revient souvent. Et pourtant, subhanallah, dans notre communauté, ce problème n'a pas lieu d'être, puisque notre noble religion nous a donné des règles à suivre, et c'est pourquoi il est essentiel pour chacun des époux de connaître ses droits et devoirs vis-à-vis de la gestion des finances. Pour aborder ce thème de la meilleure des façons, j'ai décidé d'inviter une sweet sister de qualité, que tu connais peut-être déjà. Elle est love coach et donc une experte dans les relations de couple. Il s'agit d'Anouchka Moor. So, my sweet sister, installe-toi confortablement avec une tasse de thé ou de café, un bon morceau de gâteau et profite de son expertise et de ses conseils. Salam alaikum Anouchka, comment tu vas?
Alaikum salam, ça va bien, alhamdoulilah, et toi?
Bah écoute, moi ça va, alhamdoulilah. Déjà avant de commencer, un grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation et de nous faire profiter aux Sweet Sisters et à moi-même de ton expertise. Je me souviens quand j'ai découvert ton compte et que j'ai commencé à parcourir tes posts, j'étais trop contente, subhanallah. Et je me suis dit direct, c'est elle qu'il me faut pour mon épisode sur l'argent dans le couple. Et vu qu'on n'avait jamais échangé, j'ai un peu appréhendé et je ne savais pas forcément comment t'aborder. Puis je me suis dit, bismillah, vas-y et tu verras. Et finalement, plus de peur qu'autre chose, puisque tu as été très réactive, enthousiaste par rapport au thème et de suite partante pour le projet. Donc vraiment un grand merci à toi.
Ouais, bah merci à toi pour ton invitation. Merci d'avoir pensé à moi en tout cas et merci pour ta confiance. Ça fait plaisir.
Je t'en prie avec plaisir. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter.
Alors, donc, moi, je suis Anouchka Moor, donc je suis coach love. Je suis une femme donc, de trentaine d'années. Maintenant, on ne dit plus les années. Hein. Ça y est, c'est fini. Et donc, du coup, je suis coach love, je suis mariée. J'ai déjà connu un divorce. Alors, je le dis souvent dans ma présentation parce que ça fait partie de mon histoire de coach love. Ça fait partie de l'histoire d'Anouchka Moor. Ça fait partie de ma mission de vie parce qu'effectivement, quand je me suis rendu compte en fait que dans le couple, on est deux et que c'est pas forcément… on pense souvent dans le couple, on va très facilement se déresponsabiliser et se cacher derrière les défauts de l'autre. Alors certes, hein, l'autre bien sûr, il est comme nous, il a des défauts. Peut-être des fois, il en a peut-être plus que nous. Il peut avoir certains manquements et en fait, souvent, on va se déresponsabiliser et c'est un petit peu comme dans les différents domaines. Ça va être aussi comme dans la nutrition, dans le sport, dans le bien-être, dans la spiritualité. On se déresponsabilise, on se dit « Ah, mais si j'avais ça, je pourrais faire ça. Ah, mais si j'avais ça, je ferais ça. » Et dans le couple, c'est tellement facile de se déresponsabiliser. Pourquoi ? Parce qu'on est deux. Et donc, du coup, moi, j'invite les femmes en fait, à apprendre à se responsabiliser de leur bonheur, à devenir responsables déjà pour elles pour le couple. Et en fait, quand on devient déjà responsable de son bonheur dans sa propre vie, ça vient en fait automatiquement sublimer les différents domaines de vie. Et aussi, de par cette mission, on a aussi tout ce qui est donc, l'accompagnement à la préparation au mariage. Donc, voilà un petit peu qui je suis. Après, alors c'est vrai que je suis rentrée vite dans le vide du sujet du métier de coach love, mais ce que je peux dire sur moi, c'est que je suis quelqu'un de je suis une personne assez j'aime la vie. J'aime la vie, j'aime ma religion. Je suis très très accrochée à ma religion. Pour moi, ça a été un Ça a été un déclic quand je me suis convertie. J'ai cheminé assez, enfin, je chemine toujours, hein, parce que c'est l'histoire de toute une vie. Mais donc maintenant, ça va faire 11 ans que je suis convertie. Et alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, voilà, il m'a permis de venir à cette noble et magnifique religion qui, en fait, qui donne un sens à notre vie, qui donne un cadre, qui nous aide en fait dans toutes les problématiques qu'on peut avoir et aussi dans tous les moments de bonheur et toutes les facilités aussi qu'on peut avoir. C'est pas mal.
Alors, ma Barik, franchement, cet épisode, il promet. Rien que dans ta présentation, tu as dit quelque chose qui m'a interpellée. C'est le fait de se responsabiliser en tant que personne. Je pense qu'on va l'aborder plus en profondeur par la suite, mais déjà là, toi, ma sweet sister qui nous écoute, retiens bien le fait qu'il faut savoir se responsabiliser. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton métier de love coach?
Oui. Alors, donc par rapport à ce que je vous ai déjà dit, ce que je peux vous dire donc en plus, c'est qu'effectivement, donc moi j'accompagne essentiellement des femmes, parce que bon, au niveau éthique, pour pouvoir aussi comment dire, respecter du coup ben, les commandements de mon créateur, qui sont donc d'éviter la mixité. Et c'est aussi pour ça aussi que j'ai voulu me mettre aussi à mon compte, c'était pour arrêter en fait tout ce qui était mixité dans le salariat et tout ça, parce qu'en fait, ça, je me rendais compte que au contact, à ce contact-là, ben, en fait, on s'éloigne un petit peu de la religion et on donne beaucoup trop d'importance à la dounia. Et c'est ça qui fait aussi qu'on se perd et qu'on est musulman, mais en fait, c'est comme si en fait notre vie, elle était, tu sais, elle était mise dans des boîtes. On a la boîte religion quand on fait la prière, quand on fait le ramadan, quand on va faire l'Aïd. Et puis, on va avoir la boîte travail. Et puis, en fait, des fois, il n'y a pas vraiment de lien. En fait, on a du mal à faire le lien. Et puis après, pareil, là, tous les différents domaines de vie. Et donc, du coup, voilà, donc le métier de love coach, c'est d'être dans une écoute active. Mais aussi, ça va au-delà de la thérapie, d'une simple thérapie. Moi, je ne suis pas là pour travailler pendant des mois et des mois dans le sens avec une personne, dans le sens où c'est la personne, dans une thérapie classique, c'est la personne qui va se poser ses propres questions face au thérapeute. Moi, je vais être dans l'écoute, je vais amener la personne à se poser des questions, à trouver ses propres réponses, mais on est dans l'action. Le but, c'est j'ai une problématique, je la comprends. Par exemple, je sais pas, tu as une blessure qui va te faire réagir de telle et telle façon, bah notamment, par exemple, la blessure de l'abandon va me faire réagir de telle et telle façon avec mon mari. Je vais être dans une dépendance affective, je vais être trop gentille, je vais toujours donner, je vais m'oublier. Et d'ailleurs aussi, les blessures émotionnelles peuvent aussi venir nous impacter aussi au niveau de la relation avec notre argent. On va être, par exemple, la peur du manque, ce genre de choses. Enfin, je pense que tu connais, mais c'est méga intéressant parce qu'en fait, nos blessures, sont des conditionnements dans lesquels on a été mis et dans lesquels on s'est mis. Et c'est en fait des cassettes, tu vois, comme un CD qui tourne et qu'on retourne à chaque fois, qu'on retourne, ou des phrases que nos parents, les adultes, la société nous a mis dans la tête, auxquelles on croit et qu'on croit toujours, même si on sait que c'est pas vrai, mais on continue à nous tourner le disque en fait dans notre tête. Et mon but en fait, c'est comme un nouveau langage, on apprend une nouvelle langue. Qui est donc le langage de la responsabilisation, langage l'intelligence relationnelle, émotionnelle, l'intelligence amoureuse. Et en fait, elles viennent apprendre une nouvelle notice qu'elles vont pouvoir. Donc, c'est sur des accompagnements de 4 mois. Et donc, on va travailler en profondeur pour pouvoir sublimer tous les domaines de leur vie, et notamment bah, le couple. Ça passe par là. Et parce qu'en fait, quand ça ne va pas dans le couple, bah, ça ne va pas dans plein, 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 plein d'autres domaines. On est un petit peu comme anesthésié. On va avoir plein de projets, mais on ne va pas pouvoir les mettre en compte, les mettre en pratique. Et c'est bien là souvent le problème, c'est qu'on a envie de faire des choses, que ce soit même au niveau spirituel, on a envie d'apprendre, on a envie de faire des choses, mais nos blessures, nos conditionnements, le fait d'être dans cette zone de confort qui est en fait limite une zone de confort qu'on s'est construit et qu'on est responsable de cette zone de confort, on s'est laissé rentrer dans cette zone de confort.
Et du coup, toi, tu leur permets de déconstruire tout ça et de partir sur de bonnes bases.
Exactement, on déconstruit ça et comme un nouveau langage, et ben quand on apprend un nouveau langage, on a des cours, on a de la pratique et c'est de la pratique au quotidien. C'est-à-dire que du coup, moi, je propose des accompagnements qui vont permettre aux femmes de me contacter chaque jour, de me faire un message écrit, oral, de me dire comment elles se sentent, de me dire bah là, Anouk, j'ai une problématique, qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, elles sont coachées au quotidien en plus des séances mensuelles.
Donc, ce que tu fais en gros, c'est travailler sur le côté psychologique où vous allez revoir ensemble tout ce qui se passe dans leur tête et tu les obliges à mettre en pratique les conseils en t'assurant qu'elles les appliquent et qu'il y a bien un résultat.
Exactement. Nous, on travaille sur les causes. On apprend à faire les bonnes causes. Et quand on est dans une situation, on a un peu le nez dans le guidon. Et le fait d'avoir une personne extérieure à la situation, professionnelle, qui a une capacité d'avoir une grande perspicacité dans la compréhension de la situation, c'est vrai que moi, ma grande force, effectivement, dans ce que je peux voir et dans ce qu'on peut me dire et dans ce que ça peut être, c'est vraiment ce côté empathique, écoute, mais aussi de se dire, bah tiens, là, en fait, ce qui se passe, ce que tu es en train de décrire de ton mari, même si je ne le connais pas, en fait, ça décrit ça. La personne, elle me dit, mais comment tu sais ça? Mais comment tu t'es rendu compte de ça? Bah, en fait, voilà, c'est aussi pour ça que je suis allée vers cette mission, parce que c'est plus qu'un métier, c'est vraiment une mission de vie, d'aider les femmes dans le tumulte de leur couple à mettre la baraka dans la baraque. Et la baraka, c'est Allah qui la met, mais il faut aller la chercher. Le savoir, c'est Allah qui nous le donne, mais il faut aller le chercher. La foi, c'est Allah qui nous le donne, mais il faut aller la chercher. Il faut faire les causes. Ça veut dire ça, faire les causes. Et en fait, si tu attends sur ton canapé, ben, tu vas attendre longtemps qu'il y ait quelque chose qui vienne comme un foudroiement qui vient, tu sais, comme un petit peu ce côté aussi, le prince charmant qui va venir me délivrer. Et ça, tout ça, sont des fausses croyances qui font que, ben, ouais, le prince charmant, il existe, mais il faut aller le chercher, il faut aller le construire, il faut l'entretenir. Si tu attends que ce soit ton mari qui fasse toujours tout, alors, je ne dis pas, hein, bien évidemment, qu'il y a des personnes qui sont... Il y a des relations qui peuvent être très toxiques, mais des fois, en fait, on a deux personnes qui sont saines, seules, mais ensemble, elles deviennent toxiques parce qu'en fait, elles n'ont pas compris qu'ensemble, elles pouvaient être un moteur l'une pour l'autre, qu'elles peuvent être complémentaires. Et quand la femme, elle se change, moi, je suis intimement persuadée et je le vois au quotidien, en fait, ça fait changer le reste. Quand tu changes ton monde intérieur, ça fait changer ton monde extérieur.
Encore une fois, ma sweet sister, retiens bien, c'est à nous de prendre les initiatives, de faire les causes comme nous le recommande notre religion. Quand on veut quelque chose, c'est à nous de nous lever et d'aller le chercher en faisant les invocations pour qu'Allah nous facilite si c'est un bien pour nous ou nous en éloigne si c'est un mal.
Voilà, et en fait, souvent, les... Bon, moi, effectivement, je parle aux femmes, mais si je parlerais aux hommes, ce serait la même chose, j'aurais le même discours, mais je parle aux femmes. Donc, du coup, ben, si tu as envie que ta situation elle change, ben, prends-toi en main. Si c'est difficile et t'arrives pas, hein, que tu sais, tu es dans ce puits et t'essayes de sortir de ce puits, mais tes mains, elles glissent, ça glisse, tu tombes au fond du trou. Ça, il y a des femmes que j'accompagne qui sont en burn-out, qui sont en dépression. Bah, le but, c'est de sortir de ça et de te faire aider. Moi, je te tends la main. Simplement, après, il faut... Des fois, on tend la main à des gens, mais ils ne veulent pas nous la prendre. Mais c'est OK, parce que ça veut dire que la personne, elle n'est peut-être pas prête, c'est peut-être pas le moment. Mais moi, je tends la main aux femmes qui sont prêtes à me tendre la main. Et ensemble, en fait, on va faire le travail. Et moi, je suis là pour les booster, pour les remotiver, pour leur apprendre à comprendre c'est quoi leur nefs, leur ego, qu'est-ce qui les empêche en fait d'avancer dans leur vie. Parce que le nefs, elle est instigatrice du mal. Plus comprendre aussi le wet, qu'est-ce que c'est et comment s'en protéger. Parce qu'en fait, quand on ne connaît pas tout ça, ben, on se laisse complètement, on est complètement en roue libre en fait. C'est comme si on conduisait une voiture sans les mains en fermant les yeux.
Oui, c'est ça.
On ne fait pas 2 mètres. C'est pas possible, on ne fait pas 2 mètres. Quand bien même, tu es sur une route sinueuse. Moi, je dis que la route sinueuse, c'est ton mari. Ton mari qui a ses défauts, qui a ses manquements, qui a son sale caractère. Ben, oui, tu peux conduire une voiture sur une route sinueuse, c'est possible. Mais effectivement, il faut comprendre que ben, si tu as envie d'en sortir, c'est de te rendre responsable de ça et de le faire pour Allah. Et quand tu le fais pour Allah, ça change tout. Mais le problème, ce n'est pas évident de le faire au quotidien. Et c'est pour ça que j'accompagne au quotidien pour rappeler. Comme on dit, le rappel profite aux croyants. Et de par ma formation que je suis en train de suivre, parce que bon, moi, j'ai fait toutes des formations au niveau de la psychologie, mais j'ai pris un grand tournant dans mon activité début d'année, enfin milieu d'année, là, il y a 3 mois. Et donc, du coup, j'alliais déjà la religion, mais je ne savais pas vraiment... c'était pas structuré. Aujourd'hui, il y a de la structure parce qu'on intègre la thérapie islamienne. Et en fait, ouais, bah franchement, ça change. Déjà que j'avais des super résultats, machallah, enfin, de par la grâce d'Allah, parce que les résultats, ils appartiennent à Allah, ça, on est bien d'accord. Moi, je suis juste une cause dans la vie de ces femmes. Mais de par la thérapie Slamia, en fait, on donne un niveau, ça a donné un nouveau souffle et un nouveau niveau en fait à cet accompagnement qui est de l'ordre spirituel. On avait déjà la spiritualité, mais c'était juste une matière, tu vois. Là, c'est un socle. C'est le socle de notre baraque. C'est la base de notre baraque. Voilà.
Je te remercie pour cette explication plus que détaillée sur le métier de Love Coach. Et là, maintenant, ce qui me vient, c'est de savoir pourquoi tu as choisi ce métier qui n'est pas commun dans notre communauté.
Avec plaisir. Alors, déjà, moi, j'ai toujours voulu entreprendre. J'avais cette envie d'entreprendre, de faire quelque chose à mon image, d'être mon propre patron, mais je ne savais pas dans quoi. C'est ce truc où tu te dis, purée, je sens que j'ai un truc, je sens que je serais capable, s'il y a un truc qui me plaît, une activité, une sorte de quelque chose une passion licite qui me plairait, je suis sûre que je pourrais cartonner, en tout cas dans le fait de me donner les moyens, en tout cas. Et donc, cette envie d'entreprendre, elle était là et elle est encore plus devenue accrue. Quand j'ai eu 25-26 ans et que je travaillais pour un patron, j'étais opticienne, j'étais responsable d'un magasin, ça me plaisait beaucoup ce que je faisais, mais effectivement, ben, je m'occupais de ce magasin comme si c'était mon propre magasin. Et à force, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément la reconnaissance de mon patron. Et effectivement, c'est ce côté trop gentil, ce côté voilà, vous me faites confiance, je gère tout. Et donc, je me suis prouvée à moi-même dans cette expérience, je me suis prouvée à moi-même que j'étais capable en fait d'avoir ma propre entreprise, même si c'était pas la mienne. Et que finalement, même quand c'est pas la mienne, je suis capable de faire comme si c'était la mienne. Donc, je me suis prouvée à moi-même. Mais sauf que quand ça s'est passé, voilà, j'ai commencé à rencontrer du coup. Un petit peu des problèmes avec mon employeur, qu'il n'y avait pas cette reconnaissance. Et je rencontrais des problèmes dans mon premier mariage. Donc, ce n'était pas du tout le moment d'entreprendre. Et d'ailleurs, pour les personnes qui veulent entreprendre, attention effectivement à ça, parce que souvent, on pense que c'est en entreprenant que ça va nous régler tous nos problèmes et tout ça. L'entrepreneuriat, c'est un objectif, mais avant, il faut cocher des cases. Donc, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait une introspection, je suis passée par un gros burn-out, une grosse dépression, de part que ça ne se passait pas bien avec mon ex-mari, c'était compliqué, c'était conflictuel. J'étais vraiment, bah, en fait, je suis passée vraiment en fait, par la phase notamment des femmes que j'accompagne aujourd'hui. Sauf que, voilà, c'est ça, sauf que bah, je n'ai pas eu, moi, cet accompagnement-là et je me suis laissée glisser. Et voilà, c'était mon mektoub, c'était comme ça, c'était mon destin. J'en parle un petit peu dans certains posts Insta. Et en fait, du coup, voilà, j'ai accepté cette séparation, on a accepté tous les deux, mais effectivement, ça n'a pas été facile. J'ai vécu des moments noirs, des moments qui étaient difficiles, où je marchais un petit peu dans le brouillard et je ne voyais pas cette lumière au bout du tunnel. Je me suis beaucoup, beaucoup remis dans ma religion. J'ai travaillé sur moi et j'ai commencé un petit peu, effectivement, à me faire aider, moi, sur mon bien-être, ma spiritualité, mon bien-être, tout ce qui est d'ordre de mes blessures et tout ça. Et ensuite, subhanallah, en fait, j'ai demandé à Allah en fait, de me donner un mari qui puisse me correspondre. Et subhanallah, en fait, il m'a donné ce mari, ça m'a permis en fait, d'avoir comme un élan, effectivement. Ça a été ce côté un petit peu prince charmant, mais où j'avais déjà fait ce travail, en fait, et où j'avais déjà fait des erreurs, et je ne voulais pas faire ces mêmes erreurs. Donc, j'ai fait une préparation à mariage avec lui, que j'ai fait moi-même, en fait, où j'ai posé les bonnes questions. Et toutes les questions auxquelles je le posais, eh ben, il répondait. Parce que j'avais déjà travaillé sur mes blessures, tu vois. J'avais déjà travaillé sur mes blessures et du coup, j'étais plus dans cette idée de manque, cette idée de se dire, je veux un homme qui vienne me sauver et remplir ce manque affectif. Non, je veux un mari qui vienne m'épauler, me soutenir, où on est complémentaire et où je peux être vraiment moi. Et donc, effectivement, dans ce mariage, ben effectivement, ben voilà, qui est mon mari actuel, hein, on a des valeurs communes, on a un socle commun, on a aussi une histoire commune où on a fait des erreurs et on savait ce qu'on voulait, on savait ce qu'on ne voulait plus. Simplement, quand je me suis rendu compte qu'au bout de quelques mois, ben, malgré le fait qu'on se soit choisi en conscience et que vraiment, on a tout pour faire la bonne recette et que ça a commencé à grincer, là, je me suis dit, attends. Dans mon ancien mariage, je pensais que c'était toute la faute était de mon ex-mari. Je ne vais pas refaire la même erreur. je vais me responsabiliser, je vais travailler sur moi par rapport au couple, et j'ai commencé à chercher, à lire des livres, à vraiment me former en fait, à me former, à prendre des formations en ligne sur tout ce qui était au niveau du couple, gestion des émotions, gestion des conflits. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me passionnait et je l'ai mis en pratique. Et je me suis rendu compte, en fait, quand je mettais en pratique certaines choses, je voyais que mon mari, en fait, il répondait favorablement. Alors que lui ne travaillait pas sur lui, tu vois. Lui, il répondait, en fait, et c'est ça, en fait, le truc. C'est qu'en fait, on répond, l'autre, il répond souvent, en fait, à l'énergie qu'on a en face, les réactions qu'on va avoir, tu vois. Quelqu'un qui va bouder ou qui va s'énerver en fonction de comment on réagit, en fait, ça va pas envenimer la chose, ça va désamorcer ou pas, ça va rentrer dans une dispute ou pas. Et donc, du coup, c'est venu comme une évidence. Et pendant le Covid, on était confinés. Je travaillais beaucoup moins. Je travaillais deux jours par semaine. Et donc, du coup, je me suis pris une formation en ligne pour lancer mon business de zéro en ligne sans avoir d'idée. Et en fait, il y a eu tout un travail d'introspection où j'ai demandé à mes proches. Tu vois, c'était un petit peu comme l'ikigai. L'ikigai, ça te permet de savoir de quoi le monde a besoin, pourquoi toi, tu es douée. Et qu'est-ce que les gens sont prêts à payer pour et tout ça. Et du coup, en fait, c'était venu le thérapeute familial et conjugal, c'est devenu comme une évidence. Et je me suis dit, en fait, j'ai trop envie de faire ça. Depuis toujours, j'ai toujours rencontré des problèmes dans mes relations de couple. J'ai toujours été attirée par des bad boys. Mon premier mariage, ça a été une catastrophe parce que même si j'étais avec une personne qui était pour une fois dans ma vie saine, j'ai un peu été dans le sabotage. Bon, lui aussi, hein. Enfin voilà, on était deux. Mais du coup, et là, voilà, j'ai une personne qui a le bon profil pour moi et ça commence à partir en cacahuète. Et du coup, ça a été comme une évidence. Et quand j'ai vu qu'en fait, en me changeant moi et que ce que je mettais en place dans mon couple, ça venait complètement en fait fonctionner et que du coup, ça me débloquait pour les autres, ça m'épanouissait en fait pour les autres parties de ma vie. Je me suis mis à faire du sport, je me suis mis à me remettre bien dans ma religion aussi. Enfin, en fait, ça vient débloquer plein, plein de choses et d'où l'envie d'entreprendre du coup, tu vois. Et donc là, c'était le moment pour moi. Et de cette erreur, de mes problèmes de vie, mes échecs, qui ont été, en fait, c'est pour ça que les échecs, en fait, sont des forces. J'en ai fait une force, j'en ai fait une mission de vie. Et ce qui a fait que j'ai choisi ce métier, du coup, c'est comme je le disais, j'ai une très grande empathie, j'arrive à me mettre à la place des autres. Je suis passée par là aussi. Je suis passée par la dépression, je suis passée par le burn-out, je suis passée par les difficultés, je suis passée par des relations de couple qui n'étaient pas avec mon ex-mari, mais avec quand j'étais pas musulmane, j'ai eu des copains qui étaient pervers narcissiques, violences. Enfin, franchement, j'ai tout eu, je crois. C'est les feux de l'amour. C'est les feux de l'amour, mon histoire. Et subhanallah, en fait, j'ai cette capacité, du coup, en fait, quand on veut se faire aider par quelqu'un, il faut que la personne, elle nous comprenne. Il faut qu'elle puisse comprendre par quoi on est passé, en fait, pour pouvoir nous donner des conseils. Parce que si tu donnes des conseils, mais que tu ne sais même pas ce que la personne, elle a vécu, t'es pas crédible. Et même si tu as des super conseils, tu ne vas pas parler avec la même force, la même intensité, tu vois. Et donc, mon empathie, mon écoute et aussi mon authenticité. C'est-à-dire que moi, j'ai une grande bienveillance. Donc, les gens, ils ont une facilité à prendre contact avec moi. Tu vois, par exemple, pour nous, notre histoire, prendre contact avec nous. Tu vois, avant le podcast, on a parlé comme si on se connaissait depuis toujours, tu vois. Il y a ces gens, il y a cette confiance. Il y a cette confiance que les gens, ils ont en moi, que moi, je mets aussi en les gens. Moi, j'ai confiance dans les gens. Après, voilà, c'est ma façon de procéder. Je n'ai pas envie d'être dans la méfiance. J'ai un caractère qui est comme ça. Par contre, le fait de m'être fait avoir peut-être dans ma vie, d'avoir trop facilement confiance en les gens, fait qu'aujourd'hui, j'ai mon authenticité. J'arrive et je montre mon caractère, qui je suis en fait. Parce que pendant longtemps, je pensais que je n'avais pas de caractère. Mais en fait, si, j'avais un caractère, mais je le cachais pour plaire aux autres. Et du coup, mon authenticité me permet en fait de dire les choses avec bienveillance aux sœurs que j'accompagne. Et le but, c'est ça, voilà. C'est de dire les choses et de par ma grande et belle perspicacité à les aider, à leur dire, à mettre le point là où il faut. Et elles se disent, mais subhanallah, Anouk, mais t'as tout dit. Mais c'est ça qu'il me fallait. En fait, à chaque fois que tu me parles, c'est ce que j'ai besoin d'entendre. Merci. Et du coup, elle passe à l'action.
Masha'Allah, waouh, mais quelle présentation! Franchement, my sweet sister, si tu souhaites entreprendre et que tu ne sais pas quoi faire, inspire-toi de notre sister ici et cherche ta mission de vie. Puise au fond de toi et vois à travers ton vécu, ton expérience de vie, tes compétences, ce que tu pourrais mettre au profit de la communauté. Après cette incroyable présentation, on va rentrer dans le vif du sujet, ce pourquoi tu nous écoutes, my sweet sister, c'est-à-dire la gestion de l'argent dans le couple. D'après les statistiques, en France, l'argent fait partie des causes de divorce qui revient assez souvent. C'est un sujet épineux, voire même tabou dans certains couples. Toi, Anouchka, qui accompagne des sweet sisters dans la gestion des conflits dans leur couple, est-ce que tu peux nous dire justement si tu as déjà eu affaire à ce genre de soucis? As-tu déjà accompagné des sisters qui étaient confrontées à ce problème?
Pour répondre à ta question, ça c'est clair. Je rencontre très souvent des personnes qui ont des problèmes de couple et dont l'argent est un des problèmes de leur couple. J'aurais envie d'introduire par le fait que effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se séparent, notamment à cause des problèmes de couple. Mais j'ai envie de dire, en fait, la plupart des gens qui se séparent sont des personnes qui se séparent parce qu'elles n'arrivent pas à s'entendre sur 1, 2, 3, 4, 5 sujets, que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit le travail, que ce soit l'argent. Donc, en fait, on pense que l'argent, c'est le problème. En fait, l'argent, c'est le haut de l'iceberg. En fait, en dessous, c'est souvent un manque de connexion du couple, c'est un manque de tolérance, c'est on n'arrive pas à se mettre à la place de l'autre, c'est pour notre part, puisque on est musulman, un manque de religiosité, de connaissance de sa religiosité. Du coup, on va parler de certains points alors que Allah nous a donné un guide à suivre et qu'on ne l'applique pas, tout simplement parce que notre ego, notre nez vient nous dire bah non, moi ça ne m'arrange pas, moi ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Ouais, mais en fait, être sous le la ilaha illallah, c'est respecter ce que Allah il nous a demandé de faire. Pourquoi? Pour justement éviter de créer des injustices entre les êtres humains. Et donc, du coup, moi, comme je dis, en général, ce n'est pas le problème qui est le problème, ce n'est pas la dispute qui est le problème, c'est comment on va la gérer. Parce qu'en fait, dans chaque désaccord, soit on en fait une dispute, on peut avoir une solution, soit on en fait une dispute, soit on en fait quelque chose, on se dit, voilà, on va trouver un terrain d'entente, je vais écouter ton avis, je vais écouter le mien, effectivement, et pourquoi ça part en dispute? Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre? Parce qu'en fait, on veut avoir raison l'un de l'autre, on veut prendre le dessus sur l'autre, on veut dominer l'autre. Et l'autre, s'il se laisse dominer et qu'il subit, il est autant responsable que l'autre qui domine, hein, tu vois. Donc, du coup, ça crée des problèmes. Donc voilà, et j'ai envie de te dire aussi qu'il n'y a pas que les couples qui rencontrent des problèmes d'argent. Ça peut être tout simplement, les problèmes d'argent, c'est partout, hein, c'est avec ton patron. Si par exemple, justement, tu fais plus que ta mission et qu'il ne te récompense pas, normalement, il te paye pour ce que tu fais. Et quand tu fais plus, tu attends quand même une récompense monétaire. S'il ne le fait pas et que tu lui demandes une augmentation et qu'il ne veut pas te la donner, du coup, ça crée un conflit au niveau de l'argent. Tu vois ? Si tu pars en vacances avec une copine, tu t'entends super bien avec cette copine. Tu la kiffes. Toutes les semaines, vous allez chez l'une, chez l'autre. Ça se passe super bien. Mais quand tu pars en vacances, et que tu loues un truc ensemble, et que tu as des activités communes que tu veux faire, si on n'a pas la même façon de gérer l'argent, si elle a sa façon à elle de gérer l'argent, toi, tu as ta façon, vous n'avez pas les mêmes moyens, ça va créer des conflits, ça va créer des désaccords. Et donc, du coup, tout ça, c'est souvent un manque d'intelligence relationnelle et un manque de religiosité. Qu'est-ce que tu en penses? Ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que tu en penses de ça.
Par rapport au couple ou à l'argent en général?
En général, par rapport à l'argent, de ce que tu peux voir, ce que tu peux rencontrer et tout ça.
Comme tu l'as dit, les conflits liés à l'argent, on peut les rencontrer un peu partout dans notre société, peu importe le milieu social. Ça peut être dans le couple, entre un parent et son enfant, entre frères et sœurs, entre employeurs et employés, et j'en passe. Moi, ce que je constate, c'est que souvent, ce problème a lieu à cause d'un manque d'éducation financière et d'un mauvais rapport à l'argent. Si deux personnes qui n'ont pas la même vision de l'argent et le même rapport à l'argent, à savoir un rapport sain, se rencontrent, eh bien, ça ne pourra pas fonctionner. Et ça, c'est quelque chose qui est valable pour tout autre sujet qui ne touche pas forcément à l'argent. Pour moi, je pense exactement comme toi. Pour que ce conflit soit résolu de la façon la plus juste possible, il faut mettre en avant notre religion. On le sait déjà, notre religion est parfaite. Donc, les règles concernant l'argent nous ont déjà été données. On sait déjà comment vivre avec l'argent, comment l'utiliser, quelle vision on doit avoir de l'argent. On a des droits et des devoirs, et ça même à l'intérieur du couple. Après, on est des êtres humains, on n'est pas parfait. Il y a peut-être certaines choses qu'on aura plus ou moins du mal à mettre en pratique, et c'est OK. Mais en ce qui concerne le couple, il faut partir sur les bases de la religion et essayer de trouver son équilibre autour de ça, en tenant compte de chaque époux et en posant comme limite celle fixée par l'islam.
C'est ça, et puis c'est la religion, elle nous donne des bases, mais c'est du coup de comprendre, et pourquoi est-ce qu'on veut l'appliquer, cette religion? Parce que souvent on se dit, ah ouais, mais bon, ouais, mais elle dit ça, mais souvent, tu vois, on choisit ce qu'on a envie, en fait. Mais non, c'est vraiment, on applique parce que, bah, pour plaire à notre créateur. Mais si on plaît à notre créateur, qu'est-ce qui va se passer? Il va nous mettre la baraka dans notre famille, la baraka dans notre argent, la baraka dans notre travail, la baraka ici-bas, et aussi on est en train de construire notre maison au paradis, Inch'Allah. Donc, ce n'est pas là pour faire beau et pour nous embêter. Mais ça, je le dis, mais moi, pendant longtemps, hein, j'étais comme ça aussi. Je prenais que ce qui m'arrangeait. Et puis, je ne comprenais pas pourquoi il fallait, tu vois, où je me voilais la face sur certaines choses qu'il fallait appliquer, tu vois. Et qu'en fait, tu te rends compte que quand tu délaisses quelque chose pour Allah, pour plaire à Allah, par amour pour lui, mais en fait, toutes les portes, elles s'ouvrent. Mais vraiment, toutes les portes, elles s'ouvrent. Si tu as des difficultés financières, ce n'est pas évident en ce moment, et que, comment dire, tu crois, je ne sais pas moi, une personne qui est en train de faire la manche, ou tu as juste donné 20 euros à quelqu'un, 5 euros, et que tu es là en mode, non, mais là, ce n'est pas le moment, il faut déjà que, là, il faut que je mette de l'argent de côté. Mais peut-être que cette aumône, si tu la donnes pour Allah, elle va peut-être ouvrir les portes de plein de choses. L'argent est un moyen, l'argent n'est pas, c'est pas le responsable de ton bonheur. Le bonheur, c'est qui va te le donner? C'est Allah SWT qui va te donner le bonheur, c'est pas l'argent. L'argent, c'est un moyen, bien sûr qu'on a le droit d'en avoir, on a le droit de vouloir en avoir, mais il faut changer son intention. Pourquoi est-ce que je veux en avoir? Parce que si ça devient ton premier moteur, ben c'est là où du coup, ça crée des conflits déjà rien qu'avec toi-même. Tu crées déjà une injustice vis-à-vis de ton créateur. Et ensuite, tu crées une injustice vis-à-vis de ta famille, que ce soit avec ta femme ou que ce soit avec ton mari. Voilà. Après, du coup, tu me demandais donc si je rencontrais ce type de problème, et tu voulais des exemples.
Oui, si tu en as, s'il te plaît.
Oui, j'en ai. Ouais, j'en ai beaucoup, mais j'en ai sélectionné quelques-uns. Alors, on va avoir le premier exemple du couple qui va effectivement avoir une notion différente de l'argent, où en fait l'argent va, c'est clairement par exemple, il faut de l'argent pour être heureux, il faut de l'argent pour payer les factures, il faut de l'argent pour... Donc il faut. Donc ok. Et donc du coup, on va avoir par exemple le mari qui va beaucoup travailler, il va être un peu travailomane sur les bords, donc il va entreprendre et tout ça. Et on va voir la femme aussi qui travaille. Et du coup, ils vont payer, comment dire, les factures communes et tout ça. Mais où du coup, ben, dès que madame, elle va vouloir peut-être acheter, des habits pour son fils, monsieur, il va dire, ben, ok, d'accord, tu vas acheter des habits, ben, ok, d'accord, tu vas acheter ça, mais ben, je sais pas, regarde déjà sur le bon coin, regarde déjà sur Vinted, les deuxièmes mains. Donc du coup, par rapport à ça, ben, moi j'ai trouvé la démarche de son mari, elle est bien. C'est vrai que c'est bien de pouvoir acheter en deuxième main, ça, derrière c'est, tu vois, c'est écologique, c'est éthique et tout ça. Sauf que lui, il ne le fait pas pour le côté éthique et respect de la planète, il le fait parce que c'est son côté manque, le côté manque est en mode, ouais, mais tu vois, si j'achète un vélo pour mon fils deuxième main, il sera moins cher que celui qui est acheté au magasin. Oui, certes. Mais du coup, ben, si j'ai cet argent-là, et ben, cet argent, je vais pouvoir le mettre sur mon compte et puis on va pouvoir faire d'autres choses avec. Et tu vois, c'est ce côté manque, être en manque. Et du coup, c'est un problème de mindset. Hein. C'est un problème de mindset lié à l'argent, t'es dans le manque. Si tu n'as pas compris et que tu n'as pas conscience que c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui te donne ton risque, qui te donne ta subsistance, tu seras toute ta vie en train de courir après l'argent. Et donc, cette maman qui dit « Ouais, mais non, mais moi, j'ai envie d'acheter des trucs neufs et tout, Je suis désolée. Et donc, pareil, elle, elle n'avait pas le bon mindset par rapport à l'argent, en mode, elle, elle voulait absolument acheter des trucs neufs, en mode, non, moi, je veux que mon fils, il ait des trucs neufs, c'est hors de question que je mette des trucs de seconde main. Bah, là, c'est pareil, en fait, tu vois, c'est un mindset qui n'est pas... Toi, si t'as, quand tu n'as pas les moyens, effectivement, tu vas aller vers le seconde main, mais quand tu as les moyens et que tu vas vers le seconde main, mais pour la bonne raison, et que tu peux autant t'acheter des trucs neufs, mais que des trucs de seconde main, et que t'es saine d'esprit avec toi-même en fait par rapport à ça, ben, en fait il y a pas de souci, tu vois. Donc tout ça c'est un manque de communication, c'est un manque de religiosité, un manque de connaissance, et du coup ben voilà, ils disputaient beaucoup par rapport à ça quoi. Ils disputaient beaucoup par rapport à ça, et le manque de lâcher prise aussi. J'en ai une autre aussi, par exemple, son mari c'est un travailleman plus, et c'est tout le temps argent. Et il passe sa vie à travailler et il n'est jamais dans le lâcher prise. Donc, du coup, forcément, il n'y a jamais de moment de connexion. Donc, du coup, ben, madame, elle se sent frustrée parce que, ben, elle aimerait, OK, argent, d'accord, c'est cool, tu travailles, alhamdoulilah, tu travailles. Mais par contre, effectivement, il n'y a pas de lâcher prise. Et la personne, elle court tout le temps après l'argent. Et en plus de ça, elle court après l'argent, mais en fait, même quand elle a de l'argent, même quand elle arrive à. Tu vois, ils ont réussi à acheter un appartement sans crédit. Il est tout le temps, en fait, ouais, mais on a des dettes. Ouais, mais non, mais on a des dettes. Ouais, mais non, on a des dettes.
Ils n'en profitent pas, en fait, de son argent. Ça crée même de la frustration.
Ils n'en profitent pas. Et c'est, en fait, c'est son goal de sa vie ici-bas. Et en fait, il s'éloigne complètement de ce pourquoi. Et du coup, ça crée de la frustration chez cette femme. Mais chez cette cerisette. Et du coup, cette cerisette, son problème, c'était le fait, c'est que, en fait, elle participe à ça aussi. Parce que du coup, il lui dit, bah non, bah moi je ne peux pas payer cette facture, c'est à toi de le payer.
Elle n'a aucune obligation pourtant.
Elle n'a pas d'obligation, exactement. Alors, et que leur couple, c'était ça, c'est que lui, il paye en fait les grosses. Ils étaient partis déjà en respectant en fait, tu vois, les droits et les devoirs de la femme et de l'époux. Et que effectivement, elle est à la maison, elle fait tout, elle lave le linge, elle fait tout, elle fait le ménage, il ne l'aide pas, tu vois, spécialement. Donc, je veux dire, en sachant que l'homme, il peut donner un coup de main, tu vois. C'est des SNET hein, qui gagnent, hein. C'est recommandé. Par contre, au niveau financier, c'est à l'homme de subvenir aux besoins de sa femme. Si sa femme veut lui donner un coup de main parce qu'à un moment donné, il y a un problème, pas de souci, tu vois. Mais le problème, c'est qu'après, en fait, on les habitue et ça devient une habitude. Et en fait, ils ne comprennent pas et ça crée une frustration chez la femme. Et le problème, c'est que même la femme, elle a un manque de religiosité par rapport à ça. Et du coup, elle le prend comme si, en fait, il n'est pas reconnaissant envers moi. Moi, je l'aide à payer les factures, il n'est pas reconnaissant. Et là, c'est là où est le problème. C'est pas forcément le manque de reconnaissance. Toi, l'argent que tu donnes, donne-le. Si tu payes la facture, donne-le en le faisant pour Dieu. Tu le fais pour Allah. Si tu ne le fais pas pour Allah, ne donne pas. Tu lui dis, bah non, ça, ce n'est pas de mon ressort, ce n'est pas à moi, ce n'est pas mon... Même s'il n'est pas content, même s'il boude ou quoi que ce soit.
Là, tu viens de soulever un point très important. Quand on se sent obligé de faire quelque chose et que c'est fait à contre-cœur, ça va jouer sur notre humeur, changer notre comportement envers l'époux parce qu'il y aura de la rancœur et c'est là que certains problèmes vont commencer à apparaître dans le couple.
Exactement. Et le problème, c'est qu'elle va le faire à contre-cœur et après, elle va se plaindre. Ben non, en fait, parce que tu es responsable par rapport à ça. Donc là, ben, du coup, effectivement, il y a tout un travail à faire en profondeur par rapport à ça. D'éducation aussi par rapport à son mari, en sachant qu'on ne peut pas changer les autres. Moi, je ne travaille pas avec les femmes en disant « Oui, c'est sûr, tu vas voir, ton mari va changer. » Non, on fait les causes. Tu vas voir, plus toi, tu vas t'élever, plus tu vas faire les choses pour ton créateur. Et faire des choses pour ton créateur, c'est aussi faire preuve de fermeté. Si ce n'est pas ton devoir et que c'est le devoir de ton mari et que toi, tu ne veux pas le faire parce que tu sais que tu vas être frustré après, eh ben, tu ne le fais pas. Et si, en fait, ça devient normal, eh ben, du coup, l'autre, il pense que c'est normal et puis après... Il va te. Voilà quoi, il lui sortait des trucs du genre c'est grâce à moi que j'ai pu t'acheter un appartement. Bah ouais, mais bon, en fait, ça fait des années que je paye le 30% des factures. Donc, et tu vois, il n'y a pas de reconnaissance. Mais l'être humain, il est comme ça, il est ingrat. Hein. Mais même nous, on est ingrate parce que, en tant que femme, en tant qu'homme, on est ingrat. Même les gens qui sont trop gentils, je peux vous assurer. Parce qu'on fait les choses pas fissabilillah. Et ça, c'est une injustice vis-à-vis de notre créateur. Bon, tout ça, c'est un travail de fond, hein, de comprendre et tout, ça peut un peu piquer ce que je vous dis, mais en général, je vous assure, quand il y a quelque chose qui nous pique, c'est qu'on a quelque chose à travailler. Donc, et quand on a quelque chose à travailler, ben, et qu'on s'en rend compte et qu'on se responsabilise par rapport à ça, ben, en fait, ça change complètement notre vision du monde et ça nous soulage, ça nous élève, on gagne en sérénité. Un autre exemple, il va y avoir la femme qui a accepté la polygamie et le mari n'arrive pas à subvenir aux besoins des deux femmes. Bah là, pareil, en fait, c'est d'entrée de jeu. Il faut être très, très clair, en fait. C'est que l'homme qui fait la polygamie, si toi, t'acceptes, bon, ça, c'est un autre sujet, mais ce n'est pas une obligation, attention. Ce n'est pas un droit, comme disent certains hommes en disant « la polygamie est mon droit ». Oui, c'est un droit, tu as le droit. Mais c'est comme tu as le droit d'aller marcher dans la forêt, en fait. Tu as le droit d'aller marcher dans la forêt, ce n'est pas une obligation, en fait. C'est pas ça qui va te faire rentrer au paradis, en tout cas. Et du coup, ben, c'est ça, en fait. C'est une femme qui doit payer certaines factures alors que son mari, il a choisi de prendre une seconde épouse et il n'arrive pas, en fait, à gérer financièrement. Et que là, par rapport à ça, ben, il se doit de pouvoir subvenir aux besoins des deux foyers. Et que ben, s'il n'arrive pas à le faire, eh ben, il ne faut pas qu'il fasse la polygamie ou qu'il trouve une solution. Et que si toi, tu payes les factures et que ça devient une obligation, enfin que ça devient normal, ben non. Donc, c'est-à-dire que si tu aides ton mari, je vous donne un petit tips, c'est de dire, ben, ok, ben, écoute, là, moi, j'ai regardé, alors je vais regarder si je peux, tu vas regarder, tu laisses un temps, tu vois, c'est pas un oui tout de suite, en fait. Et ensuite, si tu peux, tu dis, écoute, moi, pour cette fois-ci, je peux. Par contre, c'est de l'argent que tu me dois. Donc, en fait, c'est une dette que tu as vis-à-vis, c'est une dette que tu as vis-à-vis d'Allah par rapport à moi. Alors là, la personne, elle va réfléchir. Donc, c'est toi qui vois. Mais en tout cas, moi, je te prête cet argent. Mais par contre, il faudra que tu me le rendes le mois prochain. Parce que si tu ne me le rends pas, c'est une dette que tu as vis-à-vis d'Allah. Et on la note. Et moi, c'est une dette que je vais te demander vis-à-vis d'Allah le jour de la résurrection. Quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est, tu vois ce que je veux dire. Et donc ça, du coup, ça permet de mettre pour des règles, sont des choses simples. Alors, si la personne, elle s'énerve, si la personne... Bon, ça, c'est... Il y a d'autres choses à voir. Des fois, il faut avoir de la patience. Il faut aussi parler avec empathie. Ça dépend de la personne avec qui tu es en face, tu vois. Et de dire, moi, je crains pour toi, mon mari. Mon mari que j'aime, mon chéri d'amour, je crains pour toi. C'est pas une question de... Là, on n'est pas en train de te dire que ça me dérange de te prêter de l'argent ou d'avancer de l'argent. C'est que j'ai peur pour toi et moi, j'ai envie de te retrouver au paradis. J'ai envie qu'on... Moi, je suis ta femme aussi. Je suis là pour... On est un couple. Tu es là pour m'éduquer. Je suis là pour t'éduquer. Quand je parle d'éducation, on est dans une éducation responsable. On n'est pas dans une éducation infantilisante. Mais on est là pour s'élever l'un et l'autre. Donc, si tu n'acceptes pas ce que je te dis, c'est comme si tu n'acceptais pas ce qu'Allah il a écrit. Après, voilà, c'est entre toi et Dieu. C'est toi qui vois. Tu vois ce que je veux dire? Et quand on... Alors, dit comme ça, tu peux te dire, ouais, c'est super facile. Et au lieu de prendre la chose personnellement et de bouder et de rien dire et de te dire, ouais, tu te rends compte, normalement, il m'avait dit qu'il allait me rembourser, mais il ne me rembourse pas. Bah oui, mais il faut poser les choses. Tu prêtes de l'argent à quelqu'un, pose les choses, écris un contrat écrit.
C'est ça, même si c'est le mari, en fait, on respecte les règles, peu importe la personne en face.
Et pour les femmes qui ne sont pas mariées, ça, ce sont des choses à poser d'entrée de jeu. Bon, on en parlera après parce que je crois qu'il y a une question en ce sens. Et il y a aussi les femmes, effectivement, bah, par exemple, la femme qui vient de se marier, le mari, il n'a pas trop de moyens, et puis elle veut être un peu le côté sauveuse, le côté ouais et tout, je vais t'aider, et du coup, elle va aider son mari, mais en fait, ça devient normal. Et puis, du coup, le mari se dit, oh, bah, c'est bon, elle paye, du coup, je n'ai pas ça en moins à faire. Mais sauf qu'en fait, c'est un droit qu'on a, c'est notre hack, comme on dit. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a d'autres charges mentales à supporter, les enfants, l'éducation des enfants, du foyer, le fait d'effectivement de s'occuper de nous, d'être bien mentalement, spirituellement. Et ça, c'est lourd à faire. Parce que si nous, on s'éteint, eh ben, c'est tout le foyer qui tombe avec nous. Parce qu'on est la lumière. On est la lumière de notre foyer. Et la charge financière, je peux vous assurer, quand on n'a pas la charge financière, mais quel bonheur! Quel bonheur! Et c'est aussi la femme qui veut tout faire. Elle veut travailler, elle veut avoir son argent, elle veut avoir des projets, elle veut que son mari soit doux avec elle, qu'il soit protecteur, qu'il s'occupe de ci, qu'il s'occupe de ça, mais en même temps, elle ne lui laisse pas sa place. Et ça, c'est problématique. Et ça, c'est très culturel. En tout cas, en Afrique, c'est très, 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 très culturel de se dire que c'est la femme, pour être une bonne épouse, il faut être dans le faire. F-A-I-R-E. Faire et pas dans le être. Pour être une bonne épouse, tu dois déjà être dans le être avant d'être dans le faire. C'est comme la foi. La foi, tu as des actes d'adoration qui sont des actes d'adoration du cœur, mais du corps. Par exemple, quand tu vas faire, la prière, c'est le corps, mais c'est aussi le cœur. Si tu fais la prière, mais que tu ne mets pas la bonne intention, ce n'est pas valable. Ben, c'est pareil pour toi en tant qu'épouse. c'est les actes du corps, mais aussi du cœur. C'est ce que tu es, et il faut que la personne, elle t'aime pour ce que tu es, mais il faut que toi, tu t'acceptes pour ce que tu es. Et souvent, les femmes, quand elles sont dans le mariage, il faut que la maison, elle soit toute bien, il faut qu'elle soit, elle soit au top, il faut qu'elle se fasse belle, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit qu'il y a à manger, et puis on va faire des plats de fou, et tatati, et tatata. Et du coup, ben, en fait, on a habitué l'autre en face, et surtout qu'en plus, lui, souvent, il a une maman la même.
Ah, ça, c'est bien que tu le précises. Franchement, ma sweet sister, prends note, surtout si tu n'es pas encore mariée. On est passé par là et on sait que quand on vient de se marier, on veut que tout soit parfait, que monsieur n'ait rien à redire et on arrive parfois, même avec des habitudes qu'on n'avait même pas quand on était chez les parents, juste pour surplaire. Sauf que sur le long terme, ça nous porte préjudice parce qu'au final, on n'arrive pas à tenir. Donc, dès le départ, il faut être soi-même.
Exactement. Et les jours où on n'arrive pas, de dire, bah, écoute, là, aujourd'hui, je ne peux pas. Et même limite de se forcer un petit peu, parce qu'au début, le mari, il est beaucoup plus conciliant, on est dans la lune de miel, il va dire, c'est pas grave, ma femme, et tout. Et il va se rendre compte, le jour où tu fais rien, que le lendemain, quand tu vas faire, il va dire, ah, oh, merci, ma femme, c'était trop bon. Alors que si tu l'habitues d'entrée de jeu, mais c'est normal, c'est humain. C'est humain, si t'habitues quelqu'un tout le temps et que c'est super, c'est super, c'est super, c'est humain. Même moi, par exemple, dans l'entrepreneuriat, quand je me suis dit, ouais, quand je vais être entrepreneur, ça va être trop bien, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça. Les premiers mois d'entrepreneuriat, je kiffais ma life, j'étais trop bien. Je me disais, mais la haine du lila, mais comment c'est trop bien d'être à son compte. Je peux faire ci, je peux jeûner, je peux porter le voile. Je peux si j'ai envie d'aller, si j'ai une copine qui m'invite entre midi deux pour manger avec elle et que je ne suis pas prise par le temps, je peux rester 2 heures au lieu d'une heure. C'est trop bien, je peux organiser mon temps comme je veux. Là, aujourd'hui, je suis invitée pour un podcast. Ben, voilà, je mets mon temps comme j'ai envie. Mais ce prénom là, au bout de 6 mois, 1 an, je te jure, on n'est plus du tout dans cette gratitude. Et moi, j'essaye de me rappeler, de me dire, hey, n'oublie pas pourquoi tu as fait ça. N'oublie pas qu'au début, comment tu kiffais. Pourquoi aujourd'hui, tu ne kiffes plus? Parce qu'on est dans cette ingratitude. Et c'est pour ça qu'il faut tout le temps dire, alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et se focuser, habiter, rester focus avec son esprit sur le positif. Dans ton couple, il n'y a pas que du caca, hein. Il y a aussi du beau. Même si aujourd'hui, c'est peut-être difficile, mais il va falloir aller le chercher. Et c'est parce que ton cerveau, il s'est habitué et tu l'as musclé. Et il kiffe ça, ton cerveau, parce que ça dégage de l'endorphine, une hormone du plaisir, et que tu es dans la négativité.
Le mot que tu as sorti, c'est ça même. La gratitude, c'est la base de tout. La gratitude envers Allah en premier, puis apprendre à déverser cette gratitude sur les personnes qui nous entourent. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement fondamental pour moi. Et même dans mes accompagnements, lorsque j'aborde le rapport à l'argent, on va s'appuyer sur 10 principes pour améliorer son rapport à l'argent. Et le premier, c'est la gratitude envers Allah. Il faut apprendre à le montrer également. En fait, il faut se rendre compte qu'il y a toujours un bienfait dans notre vie, aussi minime soit-il. Essayez de voir ce positif et s'y accrocher et ne pas rester focalisé sur ce qu'on n'a pas. Et si on arrive à voir cette gratitude, ça va nous driver dans notre quotidien et nous permettre de relativiser sur beaucoup de choses et même d'être plus focus pour trouver les solutions pour résoudre nos problèmes. Et ça, c'est même quelque chose que j'essaie de mettre en place avec mes enfants car j'estime que ce sont des habitudes à mettre en place très tôt. Du coup, l'exercice que je fais avec eux, c'est tous les soirs, ils doivent remercier Allah pour 3 choses qui se sont passées dans la journée. Ils ont 7 et 4 ans et subhanallah, quand tu entends les choses pourquoi ils vont remercier Allah, c'est là que tu te prends une grande claque et tu réalises à quel point en tant qu'adulte, on est ingrat. Parce qu'eux vont être reconnaissants pour des choses que toi, tu vas te dire, c'est futile, rien d'exceptionnel. Alors qu'en fait, nous, ils ont grave raison. Par exemple, remercier Allah juste parce qu'on les a ramenés manger du fast-food ou on les a sortis au parc et pourtant, ils y vont souvent. Et là, tu vois, dans ces petites choses comme ça, banales, nous, et eh bien, eux arrivent à y voir des bienfaits. Du coup, c'est un énorme rappel à chaque fois que je les entends, tout simplement. Je me souviens même une fois, j'étais malade pendant quelques jours et quand ça allait mieux, mon fils de 7 ans qui, dans ses remerciements, sort « Merci Allah parce que tu as guéri maman et aujourd'hui, elle se sent mieux. » Et subhanallah, quand j'ai entendu ça, j'ai eu les larmes aux yeux. Déjà parce que j'étais touchée par le fait que mon fils soit heureux de me voir en meilleure santé et que finalement, il en rende grâce à Allah. Mais aussi parce que j'ai eu honte et je me suis sentie ingrate. moi qui ai invoqué Allah pour qu'il me guérisse de ma grippe, et une fois guérie, subhanallah, j'oublie d'en être sincèrement reconnaissante. Donc vraiment, la gratitude, c'est vraiment quelque chose de primordial.
Et ça fait du bien au cœur, ça t'élève, et Allah, il t'entend. Allah, il t'entend et t'es en gratitude vis-à-vis de lui. Et donc, du coup, bah, si t'es en gratitude vis-à-vis de lui, si t'es aussi dans la demande de pardon, l'istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, tout ça, il y a des bienfaits derrière. Allah, il te voit, Allah, il t'entend, il est partout. Il sait tout ça. Donc, du coup, il ne peut que te donner les récompenses. Et en plus de ça, subhanallah, dans les choses qu'il nous a demandées, il a mis des récompenses pour nous inciter à les faire. Et nous, même avec les récompenses, on ne le fait pas. Ou on oublie. Alors que si par contre on nous disait « va faire la prière à l'heure, si tu fais ta prière à l'heure, tu auras 1000 euros par prière », là on va courir, là clairement on va courir. Mais par contre, voilà, si on n'a pas ça, on va dire « oui, mais c'est Shaitan, ouais, mais c'est lourd, j'arrive pas ». Oui, effectivement, il peut y avoir des choses où Shaitan, il nous empêche de faire certaines choses, mais il ne faut pas se cacher derrière ça. Et c'est pour ça que c'est super important d'apprendre la religion. Et pourquoi apprendre et se rappeler et apprendre au quotidien? Parce que en fait, ça te rappelle et c'est ça qui va faire que ton « la ilallah », il va couler dans tes veines. Il va toucher ton cœur et ensuite, il coule dans tes veines. Et une fois qu'il coule dans tes veines, tu sais pourquoi tu fais les choses. Tu sais pourquoi tu te lèves. Parce que quand tu arrives à te lever le matin pour aller emmener tes enfants à l'école ou aller pour un travail et pour un patron, ton patron, ce n'est pas Dieu. Hein. Starfallah, c'est juste un être humain qui te donne de l'argent. Et si demain, Allah, il veut que cette personne, ce travail ne soit plus ta subsistance, ce n'est plus ta subsistance. Et pourtant, nous, on n'arrive même pas parfois à remercier comme il se doit celui qui nous donne au quotidien tout ce que l'on a. C'est-à-dire que tout ce que vous avez au quotidien, c'est par la grâce d'Allah. Tout, tout, tout. Le fait que vous écoutiez ce podcast avec nous, c'est pas grâce à nous. C'est par la grâce d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Uniquement.
Exactement. Nous, on est juste des causes, un moyen qui vous permet d'accéder à ça.
On est le moyen, et encore, c'est parce que Allah, il a décidé que ce soit nous.
Et c'est que lorsqu'on aura pris conscience de ça qu'on pourra vivre notre vie paisiblement. C'est comme quand tu donnais l'exemple du patron. On oublie que c'est Allah qui nous donne la subsistance, et du coup, on est derrière le patron à le satisfaire sans cesse au point d'en oublier nos devoirs religieux. Du coup, on oublie que si on a ce patron, c'est parce qu'Allah nous l'a permis. Sauf qu'à trop vouloir satisfaire le patron, on va négliger notre religion et donc ne plus satisfaire Allah, qui est celui qui nous a octroyé cette subsistance. Quand le patron nous donne une tâche et que l'heure de la prière sonne, on va faire passer l'exécution de la tâche avant la prière. Et le cumul de plein de petites choses comme ça vont faire qu'on délaisse nos obligations religieuses. Et c'est aussi dans ça qu'on est ingrat, parce qu'on oublie que si on a ce travail, si on a cette subsistance, c'est par sa grâce. Et ça, c'est valable pour... même pour nous, les entrepreneuses. Hein.
Ça me fait rebondir sur une histoire d'une cerisette qui, elle était pharmacienne, enfin elle est toujours pharmacienne, elle travaille pour un patron, elle porte le voile à l'extérieur, mais au travail, elle ne le porte pas. Subhanallah, elle est tombée enceinte à sa troisième grossesse. Ça se passait super bien, elle kiffe son travail, elle kiffe. Et voilà, en fait, donc du coup, elle voulait arrêter son travail. Elle était à sa troisième de grossesse. Puis elle s'est dit, moi, je me sens hypocrite maintenant d'aller au travail sans le voile et tout ça. Et du coup, bah voilà, elle annonce à son patron qu'elle va arrêter et tout ça, qu'elle est enceinte et tout ça. Donc voilà, son patron un peu déçu. Il dit, bon, bah, ah, ça, c'est dommage et tout ça. Bon. Et en même temps, voilà, il revient un peu à la charge et tout, puis il lui dit « ouais, mais bon, mais c'est pas grave, tu reviens après et tout machin ». Et puis là, du coup, elle lui glisse, elle lui dit « bah écoute, je vais pas te mentir, je vais être honnête avec toi, c'est aussi parce que ben, je porte le voile et que ben, du coup, le fait de pas pouvoir le porter à la pharmacie, c'est compliqué pour moi, quoi. Donc du coup, j'ai plus envie de ça, je suis en conflit de valeur avec moi-même ». Il a dit « ah ok, d'accord, ben, je comprends et tout ». Subhanallah, il est revenu vers elle. Il est revenu vers elle et lui a dit « écoute, est-ce que tu peux me montrer comment est-ce que si tu voudrais porter le voile à la pharmacie, comment est-ce que tu voudrais le porter? Est-ce que tu peux me montrer des photos ?» Le mec, il n'est pas musulman hein, du tout. Hein. C'est un Italien, bon chrétien à fond, bref. Et du coup, en fait, elle lui montre les photos et tout. Il lui dit « écoute, moi, si tu le portes de cette façon et tout ça, je pense que ça peut le faire avec la clientèle. » Et bah, je suis OK. Je suis OK pour que, si toi, tu es d'accord, après ta grossesse et tout, de continuer, on adapte ton emploi du temps, tu vas avoir 3 enfants et tout. Mais moi, je veux te garder. Moi, franchement, je veux te garder et tout. C'est pas normal. Tu vois comme quoi et elle a pu garder, en fait. Et toi, ses parents, ses sœurs, ses amis lui disaient, ouais, mais c'est dommage, t'arrêtes, t'as fait autant d'études, elle est allée jusqu'au doctorat et tout ça. Elle disait, mais je m'en fous, en fait, parce que moi, j'aime trop mon métier, mais aujourd'hui, je ne suis plus en accord. Franchement, je ne suis plus en accord. En plus, il y avait son côté vie de famille, c'est le côté maman et tout. Et donc, du coup, elle a gardé ce travail où elle travaille 2 jours par semaine et ça lui va très bien. Et voilà, elle va prendre ce qu'elle a à prendre, les bons côtés du travail. Et elle me dit, quand je vais travailler, je suis trop contente. Je suis le jeudi soir pour le vendredi, je suis trop contente d'aller travailler, quoi. Et en même temps, voilà. Et en même temps, elle s'occupe de ses enfants, elle fait plein d'activités avec eux. Et en même temps, ses enfants, bah, de temps en temps, 2 fois par semaine, ils vont à la crèche, ils vont à l'école, et c'est OK, tu vois. Et ça, c'est une femme qui prend soin d'elle, qui prend soin d'elle et qui se priorise et qui, sans oublier non plus sa vie de famille, tu vois.
Voilà, tu le fais vraiment pour Allah.
Exactement. Et quand tu délaisses quelque chose pour Allah, tu vas voir, il va te mettre une facilité derrière. Et tu ne sais pas c'est quoi la facilité. Ce n'est pas toi qui vas la choisir, la facilité. C'est lui, il sait mieux que personne qu'est-ce qui est un bien pour toi. Et bien souvent, des fois, on va être affligé, on va se dire, mais pourquoi, et tout ça. Et ça, c'est un manque de foi en son destin. Et en ce cas-là, il a choisi pour nous. C'est que nous, en tant que croyants, contrairement aux autres croyants, c'est-à-dire que les non-croyants, ils vont avoir des épreuves, ils vont avoir des biens sur terre, ils vont avoir des épreuves. Mais nous, non seulement on va avoir des biens sur terre, ça, c'est par la grâce d'Allah, mais on va avoir des épreuves. Et dans l'épreuve, il y a un bien qui est caché derrière. Et ça, nous, on l'a. Et du coup, c'est ça qui fait que pourquoi est-ce qu'il y a l'épreuve? Bah, parce que en fait, si on n'avait pas d'épreuve, bah déjà, déjà que avec les épreuves, on est déjà très ingrat, donc on serait encore plus ingrat. On aurait des gens, si on était tout le temps vainqueur de tout, les musulmans, et ben on aurait des gens qui viendraient avec nous et qui se diraient musulmans, mais qui seraient hypocrites juste parce que en fait, on est tout le temps gagnant sur tout, tu vois? Et que aussi. Allah, il teste notre persévérance dans l'épreuve, donc ce soit dans l'épreuve individuelle, mais aussi même dans l'épreuve, par exemple, dans les guerres. Par exemple, la bataille de Houd, qui a montré, par exemple, que le musulman, ben non, il va pas forcément gagner tout le temps. Pourquoi? Mais parce que Allah, il est avec toi, parce qu'Allah, il était avec eux pour leur dire, moi, je veux voir ta persévérance, je veux voir comment, dans l'épreuve, l'adversité, et de permettre aussi à des gens de mourir en martyr, et aussi de voir comment, même dans l'épreuve, comment tu me voues ton amour pour moi, en fait, tu vois, que tu ne fais pas que pour avoir la victoire, tu ne fais pas que pour avoir la subsistance, en fait, tu vois.
Je te remercie pour ces éléments de réponse. Je pense que c'est un sujet qu'on pourrait aborder des heures et des heures, tellement il y a à dire, mais là on va passer à la suite et revenir à ce qui touche les conflits financiers dans le couple. Tu nous as donné des exemples, donc on voit clairement que ce problème est réel. Donc moi, maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est si une de nos sweet sisters se trouve dans cette situation, à savoir, elle est mariée et au fil du temps, elle se rend compte qu'elle n'a pas la même vision des finances que son conjoint et que de ça, en fait, découle pas mal de conflits. Qu'est-ce que tu lui conseillerais?
Donc, du coup, effectivement, donc pour résoudre ce problème, ça va être un travail en profondeur. Où on va, comme je le disais tout à l'heure, en général, c'est le problème de l'argent, problème d'éducation, problème de la belle famille, c'est souvent le haut de l'iceberg. Donc, c'est souvent le fait que, voilà, on voit l'autre comme un ennemi parce qu'il a une façon différente de voir les choses, parce qu'on ne sait pas communiquer, on ne sait pas amener la chose, on prend les âmes, ou on se victimise, ou on essaye de prendre le dessus au moment où on va parler avec la personne. Et donc, du coup, en fait, ça part un petit peu en queue de poisson au moment où on parle de ça, ou effectivement, comme tu dis, on n'ose pas en parler. Donc, du coup, bah, ça va déjà être de connaître ses droits, déjà. Tout un travail, donc, du coup, de comprendre. Et que quand on va vouloir parler avec la personne, bah, en l'occurrence avec monsieur, bah, qu'on puisse quand même parler avec le cœur, dans le sens où c'est pas de dire oui, mais la religion elle dit ta 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 ta, parce que là c'est sûr, en fait, tu dis une vérité, mais la forme elle est pourrie, tu vois, elle sent pas bon. C'est un petit peu comme quand t'offres un magnifique cadeau, mais le papier cadeau voilà, il a traîné dans les égouts, tu n'as pas du tout envie de l'ouvrir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je dis toujours qu'il faut remettre de la connexion, il faut assainir la forme, il faut... On ne peut rien régler, y a aucun pro... on ne peut pas régler un problème s'il n'y a pas de connexion dans le couple. Et bien souvent, bah, les femmes ou certaines femmes ou certains hommes, quand il y a un problème, bah, on reste bloqué sur le problème. Et tant qu'on n'a pas réglé le problème, et bah, en fait, on ne va pas se parler, on va se bouder. Ou voilà, on va vivre notre quotidien. Et dès qu'on va pouvoir sortir un truc, ou dès qu'il y a un truc qui va nous piquer, bim, on va ressortir... On va ressortir cette problématique ou pas, où on va chercher des poux à l'autre, tu vois, sur des petits trucs. Ouais, pourquoi t'as fait ça? Ouais, nanana. Alors qu'en fait, le fond du problème, bah, c'est qu'il y a une frustration vis-à-vis de ça. Et donc, c'est de remettre de la connexion. Apprendre à être tolérant avec l'autre. L'autre, en fait, il ne fait pas ça contre toi. Il fait ça contre lui-même. Une personne qui va s'énerver, une personne qui ne va pas justement appliquer ses droits vis-à-vis de l'autre, c'est un manque de connaissances, c'est un manque de... C'est son ego, c'est son éducation, et c'est l'être humain, en fait. Voilà, c'est ce pourquoi aussi on doit... C'est le djihad des nefs, c'est le djihad aussi du mariage, de pouvoir mettre de la tolérance, essayer de comprendre l'autre et à arrêter de prendre les choses personnellement, prendre la hauteur, apprendre à prendre de la hauteur. Donc ça, c'est un travail qu'on fait parce que c'est pas évident, parce que le fait de le dire... Ouais, mais bon, t'es bien gentille, Anouchka, mais prendre de la hauteur, moi, quand mon mari il me dit ça. Et donc, du coup, c'est le fait de répéter, c'est le fait de prendre une situation et on la décortique. On essaie de comprendre, mais pourquoi ça te pique? Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi cela? Essaye de faire ça, essaye de mettre ça en place. Donc, des fois, on va passer vraiment être focus sur la connexion. Des fois, on va passer par le fait de vider son sac, par une lettre. Et donc, du coup, bah, quand on écrit une lettre, il y a une façon d'écrire une lettre. Si tu commences à écrire une lettre et à tout être dans le reproche, le mec, il va même pas lire trois phrases, il va l'acheter à la poubelle, il va même pas, tu vois. Il y a toute une façon, c'est une intelligence relationnelle, une intelligence émotionnelle qu'il faut avoir pour pouvoir traiter le sujet. Et que bien souvent, on pense que c'est la problématique, elle va être réglée par l'autre, et que nous, on n'arrive pas à la régler, mais en fait, la problématique, elle va être réglée par qui? Bah déjà, c'est de faire un retour à la spontanéité-là. C'est Allah qui va pouvoir régler la problématique. Et quand tu as un problème avec ton mari, déjà, au lieu d'aller te plaindre, d'aller appeler ta maman, ta sœur, la coach Instagram, Anouchka Mour, déjà, demande à Allah. Et après, demande au quotidien à Allah d'adoucir vos cœurs, d'essayer de trouver une entente, parce que c'est lui qui va permettre que vous puissiez trouver une entente. Et ensuite, fais les causes aussi, bien évidemment. En parallèle, tu fais les causes. Tu plantes des bonnes graines. C'est comme un jardin, en fait, le couple. Hein. Si tu plantes des graines pourries, si tu laisses le truc, tu es dans ton canapé, puis tu attends que tu vas avoir un magnifique rosier qui pousse, tu peux attendre longtemps, tu vas avoir que des mauvaises herbes qui poussent. Et c'est pour ça que nous, on se doit de planter des bonnes graines. Et peut-être que des fois, on plante des bonnes graines, on arrose, on a tout fait comme il faut. Et il se peut que si Allah décide que ce rosier ne pousse pas à cet endroit-là et qu'il poussera l'année prochaine parce qu'il veut tester ta persévérance, ta patience, et ben, c'est comme ça, c'est lui. Et il faut accepter le décret d'Allah. Et il y a un hadith qui dit, donc un hadith d'après Abdallah ibn Masoud, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui est touché par une pauvreté et se tourne vers les gens pour la résoudre, elle ne sera pas résolue. » Et celui qui est touché par une pauvreté et se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala pour la résoudre, alors Allah lui verra une subsistance tôt ou tard. Rapporté par Tirmizi dans les Sunan, qui l'a authentifié, et il a également été authentifié par le Shir Albani dans la correction de Tirmizi, justement.
Alors Mabarik, là tu nous as sorti le hadith qui est la clé à beaucoup de choses. Parce que ce n'est pas valable uniquement pour l'argent, mais dans tous les domaines de notre vie.
Ça, ce hadith, c'est la pauvreté matérielle, les dettes, tout ça. Pour tout ce qui va être les personnes qui vont, par exemple, avoir des problèmes de fertilité, des problèmes pour se marier, on va se tourner vers les causes religieuses, comme l'istighfar, la taqwa, la ruqya, en cas de blocage, notamment dans le mariage ou les problèmes de fertilité dus au mal occulte, et vers la médecine en cas d'infertilité physiologique. Et dans tous les cas, on doit avoir la certitude que seul Allah peut donner. Donc, on voit que dans toutes ces choses-là, il y a En fait, Allah, il a créé des mots, M-A-U-X. Il a créé des épreuves, mais justement, il a créé des épreuves pour que tu ailles chercher, que tu apprennes comment mettre, comment aller te guérir, comment aller demander, en fait, voilà. Là, on ne parle pas de guérison par rapport à la pauvreté, mais en tout cas, comment tu peux sortir de cette épreuve ? Voilà. Si Allah le veut, eh ben, tu vas devoir, justement, en tout cas, te tourner vers Allah. Demander à Allah ta subsistance.
C'est exactement ça. Donc, la première étape, avant même de discuter avec son époux, c'est de se tourner vers Allah dans sa prière, se confier à lui et lui demander de nous faciliter les causes qu'on va mettre en place pour résoudre ce problème.
Demander à Allah de nous donner la sagesse, la patience, parce que plus tu vas être élevé émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, face à une personne qui est bornée, plus tu pourras avoir de résultats. Parce qu'Allah, il te voit, tout simplement. Ça fait un effet miroir. Et effectivement, c'est demander à Allah en premier, tu vois. Tu demandes à Allah dans... Alors, les gens, ils vont dire, oui, mais bon. Non, mais c'est réel. Tu dis, oui, mais bon. Mais est-ce que tu le fais sincèrement? Est-ce que tu vas sur ton tapis de prière le matin? Tu remercies Allah, tu es en gratitude, tu invoques pour lui, tu fais la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et tu demandes à Allah de te faciliter dans tes épreuves, tu demandes à Allah de te donner l'intelligence relationnelle, de te donner la patience, de te permettre en fait, au-delà de résoudre le problème, oh Allah, aide-nous à trouver un moyen, quel qu'il soit, pour pouvoir apaiser ces tensions, pour pouvoir faire en sorte que ce problème, il soit, c'est un gros nœud aujourd'hui, mais que aide-nous en fait à dénouer ça. Et subhanallah, mais si la personne, elle le fait avec sincérité, elle aura un dénouement. Mais ça s'apprend. Et c'est d'ailleurs, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Et que dans mon accompagnement, on a une très grande... Bon, on a le socle qui est donc la spiritualité. Et un dernier hadith donc, à vous partager, donc, d'après Ibn Abbas, qui a dit, le messager d'Allah... Sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a faim ou a un besoin et l'a dissimulé aux gens, alors Allah lui a garanti de le pourvoyer d'une année de substance halal. Rapporté par Al-Baiki. Donc, tout est dit. Très souvent, quand on est atteint de quelque chose, c'est difficile, on va aller se plaindre aux gens et tout ça. Plus tu vas le dissimuler, plus tu auras une garantie qu'Allah, il va te pouvoir te donner en fait une année de subsistance halal. C'est la parole d'Allah. Est-ce que la parole d'Allah, elle est fausse? Est-ce qu'il peut y avoir un mensonge là-dedans?
Et là, clairement, tout va être une question de conviction et croyance. Es-tu convaincu que tout ce que Allah dit est réel? Et quand tu as cette intime conviction, alors forcément, tu vas appliquer ce qu'il dit et c'est là que tu verras le résultat. Ces deux hadiths que tu viens de nous partager sont vraiment des rappels et des leçons de vie qu'on doit appliquer au quotidien. Et comme tu l'as dit, on va se dire « ouais, c'est beau, c'est bien beau à dire, mais ce n'est pas évident à intégrer dans sa vie de tous les jours, certes ?»
On le fait, mais pas avec conviction, ce n'est pas régulier, tu vois. Et c'est ça, c'est Allah qui nous avoir conscience que c'est Allah qui nous donne notre subsistance et aussi voilà que avoir une conscience qu'il faut changer pour faire évoluer son rapport à l'argent. Même celle qui est complètement détachée de l'argent, si ça pose problème aujourd'hui dans ton couple, c'est peut-être qu'il y a peut-être un problème aussi.
Oui, carrément, car être trop détaché de l'argent, c'est pas forcément un signe de bon rapport à l'argent. Il faut être dans l'équilibre, ne pas penser que l'argent est un but en soi, mais que dans la société actuelle dans laquelle on vit, c'est le moyen quand même d'atteindre certains objectifs de vie.
Oui, puis c'est ça. Puis il y a des personnes qui pensent être détachées de l'argent, donc elles vont être hyper généreuses. Et ben justement, elles vont payer les factures pendant des années et tout. Et puis après, en fait, quand elles voient qu'il n'y a pas la reconnaissance et que monsieur, en fait, du coup, ça ne rend pas service à l'autre en face, ça le conforte en fait dans cette course à l'argent. Et du coup, et en fait, si vraiment tu es détachée de l'argent, ben, tu dis écoute, moi, ta course à l'argent, moi, j'y participe pas et je mets des règles en fait, enfin je mets des limites, tu vois. Et ces personnes qui sont trop gentilles, qui sont trop généreuses, et moi j'en ai fait partie, hein, où je pensais que justement moi l'argent, je m'en fichais et tout. En fait, non, je m'en fichais pas tant que ça, en fait, parce que je me retrouvais en fait à prêter des sommes d'argent faramineuses à des amis, à des copains, et que en fait, après, ben ouais, je me fais avoir, la personne ne me rembourse pas, puis après, je suis pas bien, quoi. Tu vois.
Et là, on se rend compte que ce n'est pas le fait de ne pas récupérer son argent le problème, mais c'est le manque de respect, de considération de la part de la personne.
Exactement, je ne me suis pas laissée respecter. Et je ne me suis pas laissée respecter, mais parce que je ne me suis pas respectée en prêtant cet argent. Et que, en fait, tu ne prêtes pas de l'argent comme ça. Bien sûr que tu peux prêter de l'argent. Mais si tu prêtes de l'argent, aie conscience que tu as la possibilité qu'ils ne te le rendent pas.
Exactement. Et le fait d'être autant détaché ne nous permet pas d'avoir ce recul avant de prêter et donc d'anticiper notre réaction face à un non-remboursement, tout simplement.
Exactement. Et même si aujourd'hui, même si demain, par exemple, je pourrais avoir un problème d'argent, je pourrais me dire, mais t'imagines si cette personne, elle me rendait cet argent, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Aujourd'hui, même si je suis dans cette situation-là, je ne voudrais même pas de cet argent parce que cet argent, pour moi, il est. Pour moi, c'est bon. C'est trop tard, en fait. C'est passé et c'est de l'argent qui. Voilà. C'est voilà. C'est même pas que c'est une dette. Mais je n'en veux plus en fait. Je vais même plus aller la chercher, je vais même plus aller la réclamer. Pour moi, c'est bon en fait. Je sais que ce sera quelque chose sur lequel où les personnes, ben voilà, elles me devront quelque chose dans l'au-delà et il n'y a pas de souci. Et je suis complètement apaisée en fait avec ça. Je n'y pense plus. Exactement.
Et ta conscience qu'il y aura la justice d'Allah.
Ouais, et puis je le fais pour Allah en fait, tu vois. Et je le fais pour Allah parce que j'ai pas envie en fait de comment dire d'être attachée à cet argent en mode ouais tu te rends et puis d'être dans ma blessure de me dire oh là là la personne elle m'a trahi elle m'a pas respectée de me dire mais en fait voilà cet argent je n'en veux plus ici-bas en tout cas ça ce sera dans l'au-delà voilà
En gros, ça t'évite de te faire du mal à ressarcer bêtement.
exactement et ça t'élève pas ça t'empêche de t'élever et de te rapprocher d'Allah en fait.
En effet, car ce genre de rancœur peut te pousser à faire des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs religieuses, comme aller te plaindre auprès d'une tierce personne et donc médire sur l'autre, ou même tout simplement tout le temps rabâcher ça, c'est pas bon pour le moral. C'est comme tu as dit, en fait, ça nous élève pas et ça peut même nous empêcher d'avancer, d'où l'importance de savoir passer à autre chose.
Ouais, et puis de mettre sa confiance en Allah, que voilà, si Allah, c'est Allah qui me donne ma subsistance, et à partir de ce moment-là, en fait, ben, t'as plus toutes ces pensées-là, en fait, elles partent. T'es même pas forcément d'aller parler à quelqu'un, de se plaindre à quelqu'un d'autre, mais rien que le fait de penser, quand des fois tu repenses à ça, tu dis, ah oh là là, mais et puis t'as cette colère qui monte en toi, puis tu te dis, mais je me suis pas sentie respectée là, mais aujourd'hui. Ben, en fait, non, parce que si ça s'est arrivé comme ça, c'est que ça devait arriver comme ça. Ça a été une belle leçon pour moi, pour travailler sur moi, pour justement apprendre à mettre des limites, pour justement se détacher vraiment de cet argent et que ce soit un argent qui soit juste un moyen, c'est juste un canal, en fait.
Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir, un moyen, voilà, et non une destination finale. Comme notre cheminement, en fait, il ne doit pas se faire vers l'argent. En tout cas, merci pour ces éléments de réponse. Et toi, ma Swiss sister qui nous écoute, si tu es confrontée à cette situation, alors j'espère que ces conseils te seront utiles. Et si tu as besoin de pousser l'exercice encore plus loin, surtout n'hésite pas à contacter notre sister Anouchka Moore. Donc là, on s'adressait aux Sweet Sisters qui sont déjà mariées. Et pour être équitable, moi j'ai envie qu'on arrive vers celles qui ne sont pas mariées. Et on sait que en ce qui concerne le mariage, notre religion nous donne des règles très claires et précises, notamment sur comment choisir son conjoint et par quels moyens il faut le faire. Pour résumer, on sait qu'on doit se marier sans fréquentation, qu'il faut faire des muqabala en présence d'un tuteur concernant la femme et qu'il faut enquêter sur les deux parties. Etc., etc. Et du coup, en étant passé par ce process, je peux citer pas mal de points positifs, mais par rapport à notre sujet là, je dirais que ça nous permet de nous poser les bonnes questions sur ce qu'on attend du mariage, de quel genre d'homme on a besoin dans notre vie et de savoir pourquoi on veut réellement se marier, donc de vouloir se marier pour les bonnes raisons. Pour moi, donc, ces étapes là sont cruciales et il faut tout aborder avec la personne et rien ne doit être tabou. Il faut juste savoir comment amener les choses. Et donc, la question des finances et de l'argent est primordiale pour moi. Il faut connaître la vision de l'un et l'autre sur le sujet. Sauf qu'on l'a déjà répété plusieurs fois, Il s'agit d'un sujet sensible. Donc, j'aimerais savoir, toi, en tant que love coach, comment tu conseillerais à une sweet sister qui veut se marier, qui souhaite aborder ce sujet avec son futur conjoint, mais qui aimerait que ce ne soit pas mal vu et mal interprété?
Alors, très bonne question. Et notamment, effectivement, dans mon travail de love coach, j'accompagne les femmes à la préparation au mariage, donc que ce soit en accompagnement solo ou même dans la madrasa du mariage, donc l'école du mariage, où c'est du coup en groupe avec des séances individuelles aussi. Donc, c'est un coaching de groupe personnalisé où on a toute cette dynamique pour pouvoir rencontrer l'amour, poser les bonnes questions pour les femmes qui ont un fiancé mais elles ne savent pas trop comment faire, elles veulent assainir la relation, pour celles qui n'arrivent pas, qui ont des blocages vis-à-vis du mariage. Donc, du coup, par rapport à cette question, c'est déjà de se dire que, avoir conscience que c'est un sujet qui peut poser problème dans le couple. Donc, le mariage, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et tu ne vas pas poser cette question dès le premier rendez-vous. Tu vas déjà permettre qu'il y ait une connexion, tu vas voir s'il y a un feeling, tu vas poser certaines questions quand même, c'est important parce qu'il y a un juste milieu entre le cœur et la raison, tu vois, entre le côté rationnel et irrationnel. Il faut que ton futur mari te plaise, il faut que tu dises « Ah ouais, tain, il me plaît » et tout, machin, machin. Mais il faut aussi que poser des questions rationnelles parce que si juste il te plaît, ça ne va pas tout régler. Et ça, c'est important dans les mukabala de faire attention à ça. Et aussi, il n'y a pas que le côté rationnel, il y a aussi le côté où il faut quand même qu'il te plaît et que tu aies un minimum d'attirance pour lui. Ça ne se voit pas non, forcément à la première rencontre, ça peut se voir à la deuxième, la troisième rencontre. Et plus tu le vois, plus en fait, il te plaît parce que ses réponses, parce que voilà, tu apprends à le connaître. Donc, c'est une question, ce sont des questions en fait, qui font partie des 100 questions à poser dans une mukabala. Et c'est un sujet à lui tout seul où on a une dizaine de questions à poser. Donc, il faut s'autoriser à poser ces questions. Si tu es dans une dynamique de mariage et que tu respectes, enfin, le mieux du mieux, c'est vraiment quand tu rencontres quelqu'un de dire voilà, moi je suis dans une dynamique de mariage et pour rester dans cette dynamique, c'est on ne va pas te fréquenter pour voir si, si tu me corresponds. Bien évidemment, ce n'est pas parce que tu es dans une dynamique de mariage que c'est sûr que tu vas te marier avec, mais en tout cas, tu fais tout pour. Donc tu mets un cadre, tu ouvres un compte WhatsApp avec une tierce personne, un mahram qui peut venir checker ce qui se passe. Tu ne vas pas commencer à envoyer des messages du matin au soir, qu'est-ce que tu fais, machin. Tu sais, le côté un peu où on parle de tout, de rien. Tiens, qu'est-ce que tu as mangé, de quelle couleur. Non, mais c'est bon, quoi, tu vois. Parce que tout ça, en fait, ça va créer le fait que tu vas t'attacher à la personne, tu vas créer une habitude. Et du coup, en fait, tu vas te retrouver dans un engrenage où soit tu vas perdre ton temps, tu ne vas pas poser les bonnes questions et tu ne vas pas te rendre compte si cette personne est faite pour toi. Bon, j'ai un petit peu dévié du sujet, mais c'est tellement quelque chose de passionnant que je kiffe faire que du coup, il faut s'autoriser à poser la question. Il faut avoir conscience que c'est un sujet à dispute et que c'est un droit et qu'en fait, si tu poses la question et que la personne, elle se braque en face, et ben, c'est clairement que cette personne n'est pas faite pour toi, tout simplement. Il faut avoir confiance dans ce cas-là, il l'a décrété. Bien évidemment, tu ne vas pas être dans les questions en manque. Oui, moi, je veux absolument que tu gagnes tant parce que moi, je veux avoir un niveau de vie, ta, 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 ta. Ça, je l'ai rencontré récemment avec une cerisette qui est en préparation au mariage où elle a un prétendant et où, effectivement, le monsieur, il a un SMIC. Enfin, voilà, il n'a pas forcément beaucoup de moyens. Elle me dit, mais bon, moi, tu comprends, il cause toutes les cages. Mais bon, moi, j'ai toujours été habituée avec mon ex-mari d'avoir une super… Donc, tout ça, ce sont des peurs. Si demain, si Allah il a choisi que tu as un mari qui a un SMIC ou qui a 2000 euros, qui a 5000 ou qui a 10 000, mais que tu auras de la baraka dans ton mariage parce que tu ne vas pas le prendre ton mari parce qu'il a tel ou tel, déjà tel ou tel revenu, bah oui, parce que, comme on dit, si c'est Allah qui donne notre livre, demain, si ton mari il peut lui prendre en fait son job, il peut lui prendre son. Il ne faut pas croire que c'est grâce à ça ou grâce à telle compétence que je peux avoir tel argent. Et si Allah veut que cet homme il devienne plus riche, et ben il deviendra plus riche. Et il ne faut pas se baser sur, forcément sur ce que tu as tout de suite. Tu vois. Alors bien évidemment, hein, je ne vais pas te dire, prends un monsieur qui ne travaille pas. C'est important qu'un monsieur qui veut se marier, il faut qu'il puisse avoir conscience de ses responsabilités. Première chose qu'il faut Vis-à-vis de l'argent, déjà avant de poser les questions par rapport à l'argent, moi, s'il y a une question, un truc, c'est renseigne-toi et assure-toi que ton futur mari ait peur de Dieu, qu'il ait une crainte de Dieu. Parce que s'il a peur de Dieu, mais vraiment une crainte de Dieu, il va être dans l'apprentissage, la connaissance de sa religion, et il va vouloir appliquer ce que sa religion lui dit. Et pas, il ne va pas l'appliquer en essayant d'appliquer ce qu'il a envie. Il va appliquer ce qu'Allah lui a demandé pour plaire à Dieu. Parce que la peur de Dieu, elle n'est pas que dans les actes. Le fait que monsieur fasse la prière, que le fait qu'il aille à la mosquée, qu'il fasse le ramadan, elle est dans le cœur. Donc ça, c'est demander à Allah aussi dans les prières de consultation. Quand on est en préparation au mariage, on doit faire la prière de consultation au quotidien. Et dans les questions à poser, c'est déjà de demander, voilà, est-ce qu'il a des dettes? Donc ça, c'est un droit que tu as de savoir si monsieur il a des dettes. De lui demander, par exemple, la question, je vous la donne, peux-tu me décrire ton rapport à l'argent? On pose des questions ouvertes. Tu ne demandes pas à ton mari, est-ce que tu es généré ou est-ce que tu es radin? Parce que déjà, on a la réponse dedans. Personne ne va dire, je suis radin. Mais peux-tu me décrire ton rapport à l'argent? Et tu poses des questions sur, je ne sais pas moi, comment il gère son argent au quotidien, comment il gère son argent avec sa famille. Est-ce que sa famille, elle compte sur lui? Est-ce qu'aujourd'hui, il subvient au besoin de quelqu'un? Par exemple, je ne sais pas moi, de sa sœur, de sa mère, ce genre de choses. Poser cette question, que représente pour toi l'argent au sein du couple? Comme ça, tu vas savoir si pour lui, moi, clairement, c'est moi qui vais travailler, c'est moi qui vais subvenir aux besoins de la famille. Voilà, tu vois. Et même si toi, tu travailles, du coup, comment ça se passe? Comment ça va se passer?
Mais carrément, ça, c'est un point à aborder. Parce que même si l'homme subvient aux besoins de la famille, mais que tu souhaites travailler et avoir une certaine autonomie financière, il faut connaître son point de vue par rapport à ça. Si on attend d'être marié pour en discuter et que le mari, justement, ne souhaite pas voir sa femme travailler ou qu'il t'impose la condition de participer aux dépenses si tu souhaites travailler, ben, tout ça, ça risque d'être conflictuel.
Et que ce n'est pas parce que tu travailles que tu dois faire 50-50 avec ton mari, que tu puisses l'aider à un moment donné. Parce que la facilité de la vie quand on est femme au foyer, ce n'est pas la même que quand on travaille. Quand on travaille, on ne peut pas s'occuper de la même façon de son foyer. Donc, après, à voir. Si c'est ça et que toi, du coup, ben, ça peut être, moi, comme je dis aux filles, je dis, tu peux très bien payer une femme de ménage qui peut venir t'aider à faire le ménage ou ce genre de choses pour que, voilà. Mais par contre, effectivement, ça revient quand même à l'homme de subvenir aux besoins de sa famille en grande majorité. Après, on peut se mettre d'accord. Si toi, c'est OK de participer, tu participes, tu vois. Mais souvent, des fois, on peut être surpris parce que, voilà, tu travailles, peut-être même si tu as un meilleur salaire que monsieur, et ben du coup, tu vas penser qu'il va falloir que tu payes plus de choses. Mais que, du coup, le jour où tu te retrouves en congé maternité, ben, tu es à la maison. Oui, OK, tu as un salaire, mais du coup, tu es à la maison. Donc, tu t'occupes des enfants, tu t'occupes de ceci, tu t'occupes de cela. Donc, tu as double emploi. Il n'y a pas une seule façon de faire. Si pour toi, c'est OK et que tu dis, moi, ça ne va pas me déranger, il faut que tu sois sûr que ce soit OK. Ne dis pas que tu es OK pour faire plaisir à l'autre, pour faire genre que tu es quelqu'un de généreux. Non.
Il faut se connaître pour savoir si on décide de le faire. Est-ce que c'est vraiment de bon cœur ou sous la contrainte? Est-ce qu'on va réussir à tenir sur le long terme ou pas?
Et aussi, poser des parce qu'il y a aussi des hommes, des fois, qui, pour eux, c'est à eux de subvenir aux besoins de la famille. Et j'ai déjà rencontré des personnes qui ont rencontré, par exemple, des accidents qui les ont empêchés, du coup, de subvenir aux besoins de la famille, et ils étaient à leur compte. Et ils se sont empêchés de demander de l'aide à leur femme. Et du coup, ça a créé un peu des conflits parce que il y a eu comme une frustration, tu vois, derrière de se dire, mais attends, mais moi, je peux t'aider. Pourquoi tu ne veux pas que je t'aide? Pourquoi tu vas demander à ta mère, à ta sœur? Mais tu vois, de ce côté, de se dire, mais du coup, mais en fait, tu ne fais pas confiance, en fait, tu vois. Et ce côté très fierté un peu mal placé, quoi. Il faut soumettre des situations type, d'ailleurs, comme dans les différents domaines du mariage, des différents... thématique du mariage à aborder, il faut soumettre des situations type. T'expliques une situation, je ne sais pas moi, une situation que tu as déjà rencontrée ou que tu as déjà entendu parler. Bah tiens, si je te parle, tu racontes une histoire. Tu sais, c'est comme comme quand on a un problème à l'école. Une situation, tu as un problème. Bah tiens, Marc a deux pièces, Marie en a trois. Bah tiens, mais qu'est-ce que l'on peut faire avec ça? Et ben, c'est la même chose. Tu expliques une problématique. Et tu lui demandes de s'expliquer. par rapport à ça. Et toi, par contre, tu as fait le même travail. Et ça s'appelle des tests de compatibilité. Enfin, j'en ai créé un, du coup, sur mesure à partir de tout ce qui est religiosité, mais aussi par rapport à toute mon expérience et tout ce que je peux rencontrer au quotidien et les problématiques que je rencontre dans les couples, je les ai mis dans le test de personnalité pour vraiment voir tous les différents points et que ce soit acté. Et en fait, du coup, c'est génial parce que la personne, elle remplit son test de compatibilité pour elle. L'autre, elle lui donne aussi, c'est un format PDF, il le remplit et ensuite ils échangent. Et ça, tu as déjà énormément de choses. Tu as déjà énormément de points que tu as traités. Et je peux vous assurer que c'est beaucoup plus fort que de passer 6 mois à aller se promener dans la forêt et au parc à donner à manger aux cygnes pour savoir si ça va être mon mari ou pas, quoi. Parce que tu laisses rentrer Shaitan, en fait, entre vous deux.
Et puis, la personne peut faire ce qu'elle veut. Hein.
Oui, c'est ça. Après, bon, on n'est jamais à l'abri, hein, même dans les réponses. On peut avoir des personnes qui mentent ou autres. Mais en tout cas, c'est acté et qu'il faut avoir confiance en Dieu. Sinon, tu ne fais jamais rien. De toute façon, tu ne peux jamais être sûr à 100%. Je ne sais pas si toi, ça a été ton cas, mais moi, je sais qu'on n'est jamais sûr à 100% que ça va être le bon. C'est au moment où tu te maries avec lui, tu dis « Ah bah ouais, franchement, c'est une bonne personne. » Et même dans le mariage, et même quand ça se passe bien, on n'est jamais à l'abri, parce que c'est Allah qui détient notre destin. Nous, on ne peut pas être dans cette maîtrise et ce contrôle. Ça veut dire que quoi ? On connaît notre avenir ? Non, c'est Allah qui connaît notre avenir. Nous, on ne le connaît pas. Et on n'a pas à le connaître. Et c'est pour ça qu'on doit avoir le tawakkul, la confiance en Dieu.
Super. Et là, pour clôturer avec beauté la discussion, si tu devais donner qu'un seul conseil à nos sweet sisters pour une vie de couple épanouie, lequel ce serait en ce qui concerne l'argent ?
Ok. Alors, bah, le conseil que je vais donner, si je devais donner un conseil, bon, moi, comme tu as compris, j'en donne plusieurs, mais en tout cas, s'il y a un conseil, je l'ai déjà donné au cours de notre échange, parce que s'il y en a un, bah, pour moi, c'est l'essentiel, c'est vraiment de demander à Allah, c'est vraiment de demander à Allah et de tout faire pour augmenter ta foi. Parce que Allah, il ne laissera jamais un croyant avec une foi ferme dans la difficulté sans avoir de sortie, de porte de sortie, sans avoir de facilité derrière cette difficulté. Donc, et ça s'apprend. Et je sais que c'est difficile, mais en tout cas, c'est le conseil. Je dirais que, en général, avec ce conseil-là, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, parce que pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir se détacher de ces vieux schémas, de ces blessures émotionnelles de l'enfance, de son ego, son nefs, de ses wes-wes. Et tout ça, c'est un travail et c'est ce qu'on fait en thérapie islamia. Mais effectivement, la base, le moteur, c'est de faire les choses pour Allah et que c'est Allah qui va pouvoir nous donner un dénouement, nous faciliter derrière la difficulté et de faire les causes, quoi. C'est de ça. Tu fais les causes, tu te rends responsable.
Allahumma barik. En fait, c'est ça. On doit prendre conscience qu'être musulman, c'est une chance, que c'est une miséricorde d'Allah. Et que le moins qu'on puisse faire, c'est de lui montrer notre gratitude et qu'on fasse partie de ces personnes qu'il a choisies, en fait, pour être dans l'islam. Et faire partie de l'islam, c'est tellement fort qu'on ne peut pas se dire reconnaissant et ne pas montrer cette reconnaissance dans notre quotidien. Et moi, je pense que l'une des façons de montrer notre gratitude, c'est aussi de faire appel à lui pour chaque besoin. C'est lui qui nous a guidés sur l'islam, donc rien ne lui est impossible. Donc, pourquoi hésiter à se tourner vers lui qui est capable de toute chose alors qu'on est dans le besoin?
Et en plus de ça, c'est un devoir qu'on a, parce qu'être musulman, c'est comme tu dis, c'est une chance, mais être musulman, ça ne veut pas dire qu'on... Enfin, ne pas oublier, c'est quoi notre goal de notre vie? Le goal de notre vie, c'est l'éternité. Et j'ai envie de te dire, les problèmes d'argent dans cette vie d'ici-bas, si tu mets ce problème d'argent dans ta vie de couple, dans l'éternité, elle représente quoi sur une crise? Rien, elle est invisible à l'œil nu. Donc, c'est de vraiment, plus tu vas prendre de la hauteur, plus tu vas pouvoir dénouer toutes tes épreuves, tous tes conflits, parce que tu vas avoir cette sagesse. Et quand tu fais preuve de sagesse, quand tu te tournes vers Allah, Allah, il ne t'oublie pas. Et tout en découle, en fait. Allah, il va te mettre la baraka dans beaucoup, beaucoup de choses.
Dans tout. En fait, il faut le vivre pour le comprendre. Des fois, on pense que c'est futile et qu'il n'y a pas besoin d'invoquer pour ça, mais c'est faux.
Et Allah, il aime ça. Il veut que tu le solliciter avec humilité. Il le veut. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nous. Mais par contre, quand tu vas le solliciter, il est là. Il ne t'oubliera pas.
Voilà. Comme tu le dis, il aime ça. Et il nous le dit, invoquez-moi. Donc, pourquoi s'en priver? Surtout que ça ne demande rien, ça ne nous coûte rien. Au contraire, tu en tires même une satisfaction parce qu'il y a un résultat qui arrive après ça.
Ça ne nous coûte rien, mais par contre, on en sera rétribué, on aura un salaire qui sera qui n'a pas de prix, en fait.
Du coup, ce conseil-là, il est valable pour tout, hein. Que ce soit pour l'argent ou autre, comme tu as dit, c'est le numéro un, le retour à Allah. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup pour cet échange tellement puissant. J'ai tellement hâte de le partager avec nos sweet sisters. J'ai trouvé ça tellement enrichissant.
Ouais, grave. J'ai beaucoup aimé parler avec toi aussi.
Merci. C'est dommage parce qu'il y a tellement à dire, comme je disais, on pourrait en parler des heures et des heures, mais bon, il va quand même falloir que je te libère. Et je suis sûre que tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui sera bénéfique pour nos sisters.
Inch'Allah. Qu'Allah mette ta baraka dans ton travail, dans ce que tu Amin. Fais, et que cet épisode puisse servir aux sœurs, Inch'Allah.
Bon, ben voilà, ma sweet sister, l'épisode touche à sa fin. J'espère vraiment qu'il t'a ouvert l'appétit en t'apportant quelques éléments de réponse en ce qui concerne l'argent dans le couple. Mais une chose est sûre, c'est que pour en être rassasié et avoir toutes les clés en main pour une vie de couple épanouie, il faut absolument que tu suives notre sister Anoushka Mo. Et pourquoi pas faire appel à elle au besoin. En tout cas, moi j'ai trop apprécié ce moment en sa compagnie et j'espère que toi aussi. Si c'est le cas, alors je te demanderai de m'aider à la remercier comme il se doit, en laissant un petit avis sous cet épisode et en invitant d'autres sweet sisters à le découvrir. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. C'était Kounadi de Budget Éthique Femme pour A Cup of Tea Money, le podcast des femmes musulmanes qui aspirent à une vie épanouie ici-bas et dans l'au-delà. Assalamu alaikum.